Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
I'm sorry I'm upsetting you, David, but you don't understand what's going on.
I understand, all right. You're one of the undead, and I'm a werewolf.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un film culte auquel l'Atelier d'Images vient de consacrer une édition assez ultime, film culte qui fête ses 40 ans et son anniversaire là est bien fêté avec cette édition de l'Atelier d'Images. Ce film culte, bien sûr, c'est Le Loup-garou de Londres de John Landis. Alors on va parler du film, évidemment, mais on va aussi réécouter quelques échanges que nous avions eus avec John Landis. En particulier au sujet du Loup-garou de Londres, et puis où est-il allé puiser son inspiration? Ça, c'était très, très, très intéressant. Donc, on vous proposera tout ça dans la deuxième partie d'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Blanche Aurore Duo et Fabien Gaffé pour leur aide sur cette émission. Et pour causer lycanthrope, je suis entouré de deux sacrés bestiaux. Alors, je vais bien sûr parler de Damien Demey, alias la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Je veux également causer de celui que tout le monde craint en Picardie, le fameux loup-garou Picard, évidemment, Thomas Roland. Thomas Roland qui est, alors, accessoirement, il est co-rédacteur en chef de Prime Cut et accessoirement, il enregistre aussi l'émission À l'écoute du cinéma et tout cela est diffusé sur RCA. Et je lui dis un peu apeuré tout de même, de peur qu'il sorte ses griffes, puis surtout c'est la pleine lune. Salut Thomas.
Salut chers collègues de Prime Cut, GG, et salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixé pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Afin de vous encourager à découvrir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un de ses membres. Cette semaine, c'est Sébastien Guéraud, qui s'y colle. Alors Sébastien Guéraud, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs?
Je suis enseignant en cinéma et écrivain. Du coup, là, je suis l'auteur avec Maxime Lachaud du livre Reflet dans un œil mort, qui était sorti il y a une dizaine d'années maintenant, qui était le premier livre français consacré au cinéma mondo. J'ai ensuite publié en 2015 un livre qui s'appelle Joe D'Amato, le réalisateur fantôme, hein, qui était le livre donc publié chez Artus, qui était donc, comme son titre l'indique, consacré à Joe D'Amato, donc le réalisateur de Anthropophagus, Blue Holocaust, qui avait fait, donc, qui a pratiqué un petit peu tous les genres dans le cinéma bis italien. La même année, j'avais publié donc mon premier roman, qui s'appelle Camera Obscura, qui était en fait une extension un petit peu de pas mal d'idées que j'essayais de développer dans mes dans mes essais, j'ai publié ensuite un deuxième roman qui s'appelle Galerie Noire, qui est sorti aux éditions Rivière Blanche en 2019. Et je prépare actuellement plusieurs livres, puisqu'il y a donc un essai sur Jimmy G. Ballard qui va sortir à la fin de l'année. Un recueil de nouvelles donc, qui s'appelle Saignement, qui va sortir aux éditions Rivière Blanche. Il y a un essai sur lequel je travaille depuis plusieurs années qui s'appelle Apocalypse Film, qui est une histoire du cinéma à travers ses pires catastrophes. Pour finir, il y a la réédition de Reflet dans un œil mort, sur lequel, avec Maxime, on travaille d'arrache-pied, en espérant que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, c'est un peu mes activités. Bon, après, parallèlement, j'ai collaboré aussi à pas mal d'éditions donc de DVD. Donc là, cet été, il y a eu le Crash de David Cronenberg qui est sorti, pour lequel j'avais rédigé une partie du livret. J'avais fait l'an dernier, ou il y a deux ans, Les Bêtes Féroces Attaquent pour Ecstasy of Film. Et voilà, donc c'est des petites. Donc j'avais fait des petites capsules comme ça, fait des bonus DVD. Donc voilà, et là je suis sur Prime Cut sur le premier numéro consacré à Michael Winner.
Et justement, pouvez-vous nous présenter votre travail au sein de Prime Cut?
Alors en fait, du coup, Prime Cut m'avait contacté il y a quelques temps. Au sujet d'un dossier sur Michael Winner, alors évidemment j'étais très content parce que j'aime beaucoup ce cinéaste. Et surtout, c'est vrai que c'est un cinéaste qui commence à peine à être redécouvert, je dirais. C'est un cinéaste qui a été assez mal aimé pendant très longtemps. Et donc, du coup, évidemment, j'étais très content. J'avais fait deux textes, l'un sur la figure du mentor dans le cinéma de Michael Winner, puisque c'est un cinéaste, comme chacun sait, assez misanthrope, assez cynique. Et donc, je voulais un peu travailler sur une figure récurrente un petit peu de son cinéma, qui est la figure du père toxique, du mentor maléfique. Et j'avais fait un autre texte sur un sujet un peu plus obscur, et puisqu'il s'agit, en fait, je voulais aborder un film expérimental qui était sorti dans les années 70, qui s'appelle The Politics of Perception, de Nick Tugas, qui était une destruction, en fait, du film Le Flingueur, de Michael Winner. Je fais une petite chronique musicale aussi sur la BO de Gilles Mellet pour le film de La Sentinelle des Maudits, The Sentinel, donc. Donc voilà, et donc, parce que ça aussi, c'est un de mes hobbies, c'est les BO de films, donc j'aime beaucoup les collectionner et écrire des chroniques dessus. Donc voilà, c'est un peu mon travail pour Prime Cut.
Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous rappelons que pour souscrire à cette revue, il vous suffit de vous rendre sur the-ecstasy-off-film-au-pluriel.com ou de l'acheter chez votre libraire.
Lee Marvin, Gene Hackman, together their murder in Prime Cut.
Le Loup-garou de Londres, An American Werewolf in London, une coproduction entre le Royaume-Uni et les États-Unis, un film sorti en 1981, un film qui a fait date, alors un film de John Landis, un film que bon, tout le monde connaît, mais on va résumer. Alors il est avec Frank Oz, David Naughton, la belle Jenny Agutter, avec Griffin Dunne. Il y a la musique d'Elmer Bernstein aussi qui est très très connue. Ce film culte qui fête ses 40 ans, l'éditeur L'Atelier d'Images a décidé de lui rendre hommage à travers une édition très impressionnante. Elle comprend un disque UHD. C'est la première fois que le film est dispo en UHD. Un Blu-ray HD avec un nouveau master 4K. En supplément, on a des commentaires audio des acteurs David Naughton et Griffin Dunne. Alors on apprenait Garde à la Lune, les coulisses du tournage, entretien avec John Landis et Eric Baker. J'ai marché avec un loup-garou, gros plan sur la technique. Bon, il y a un bêtisier, il y a des storyboards, enfin, il y a tout ça. Et puis encore plein de choses. On ne peut pas tout vous citer. Voilà, il y a la filiation avec la Universal qui est analysée. Il y a une interview de John Landis très intéressante. Il y a plein de choses. Il y a aussi un très bon module où Philippe Gage s'exprime sur ce monstre du cinéma américain qui se retrouve en Angleterre. Ça, c'est très, très intéressant. Mais nous, on va surtout... Alors, puis il y a aussi un superbe livret de 56 pages sur la création du film avec l'interview exclusive de Rick Baker paru dans le magazine SFX. Alors, puis après, il y a des choses, des affiches, des sous-box, des goodies en tout genre, voilà. En tout cas, l'éditeur rend hommage à ce film De manière, comment dire, très très réussie. Hein. C'est un bien bel objet, c'est un bien beau coffret. Et Loup-garou de Londres, qui était déjà été bien servi d'ailleurs en DVD, il y avait déjà eu des belles éditions, mais alors là, vraiment, c'est l'édition assez ultime, hein. C'est une édition prestige. Et bah, le film le vaut bien, on va dire, voilà, le film le vaut bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est deux jeunes routards américains, donc interprétés par David Naughton et Griffin Dunne, qui se lancent dans un voyage en Europe de plusieurs mois. Et ils se retrouvent à un moment au beau milieu d'une campagne anglaise désolée. Et puis, on les prévient, pourtant, dire attention à la lune, n'allez pas dans la lande et tout ça. Mais bon, mais quand on est jeune, on est un peu dingue. Et on y va. Et là, tout à coup, ils entendent un hurlement terrifiant. Et ce n'est pas Thomas Roland. C'est un autre loup-garou. Et bon, y a un des deux loustiques qui va se faire mordre. Et puis, ça va pas très bien se passer. Quoi. Ça va pas très bien se passer. Et le film va rester culte pour diverses raisons. Entre autres, une transformation signée Rick Baker. Et puis, très bien réalisé par John Landis aussi, il faut le dire. Voilà, avec la complicité de Rick Baker. Qui fait que, pour la première fois, on a l'impression de voir réellement une transformation en loup-garou. Avec des effets spéciaux mécaniques très, très impressionnants. Et qui font toujours la nique aujourd'hui à pas mal d'effets spéciaux en animatronique, enfin voilà, qui ont toujours très très belle allure, très fière allure aujourd'hui, cette séquence qui est vraiment culte. Hein. Mais le film, ce n'est pas que ça. Souvent vendu comme une comédie, en fait, c'est aussi un vrai film d'horreur avec un côté tragique, avec très, très romantique aussi. Enfin bref, Thomas, c'est un vrai grand film. Pour moi, dans mon top 3 des films de loup-garou, il arrive quand même numéro 2 derrière Hurlement, que je trouve génialissime. Mais celui-là, il est numéro 2. Pour moi, c'est le deuxième meilleur film de loup-garou de tous les temps. C'est déjà pas mal quand même.
Les miracles, ça arrive. Je suis d'accord avec toi, Gégé. Je me suis précipité sur cette édition Blu-ray du Loup-garou de Londres. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans le film, c'est que on a vraiment l'impression d'être dans la lande anglaise, on a vraiment l'impression d'être à Londres. Il arrive à capter cette atmosphère, l'ambiance qu'on peut trouver en Angleterre. Alors j'aime beaucoup le début qui se passe dans la langue anglaise, dans ce petit village paumé, notamment le passage dans le pub, qui est quand même assez court, mais qui est quand même, quelque part, il est hilarant. Parce qu'on a vraiment, l'ambiance du pub, les mecs qui jouent aux fléchettes, qui boivent de la bière, qui jouent aux échecs. C'est vraiment typique d'une soirée au pub en Angleterre. Mais quand on regarde bien le film, quand on regarde bien ce qui est au mur, c'est quand même un pub qui est quand même vachement étrange. Bon, il y a déjà ce pentagramme avec les bougies, une bougie de chaque côté du pentagramme, et c'est quand même bizarre dans un pub anglais de voir ça. Mais il y a aussi des crânes et puis des animaux empaillés. On se demande d'où ils sortent, de quelle sorte d'animaux ça peut être. Et ça, c'est vachement intriguant. C'est tout d'un coup, on est dans une autre atmosphère. L'atmosphère tranquille du pub devient complètement autre chose. Et aussi, ce que j'aime, après dans le reste du film, on visite Londres. Enfin, pas tout Londres, hein, mais on voit le métro londonien, The Tube, les bords de la Tamise. On a vraiment l'impression d'être à Londres. Et il arrive à capter ça, notamment à Piccadilly. Et ce que j'avais jamais noté, pourtant j'ai vu le film en pellicule en salle grâce au festival du film d'Amiens, c'est quand même vachement gore en fait, c'est vachement violent. La fin, il y a quand même des morts complètement gratuites. Et j'étais étonné, je l'ai redécouvert là en Blu-ray, j'ai vu un autre film. Et c'est aussi un film, alors je pense que, de toute façon, je ne sais pas s'il en parle dans l'interview, je ne m'en souviens plus, mais John Landis, visiblement King Kong, ça l'a frappé quoi. Parce que déjà Schlock, c'est déjà une variation de King Kong. Mais là, pour moi, le Loup-garou de Londres, c'est aussi une autre variation de King Kong. C'est La Belle et la Bête. Et ça se termine pareil, quasiment, que King Kong, ou même Schlock, qui est son premier long métrage, complètement dingue.
Je vais rester avec toi dans le bar, Thomas, pour parler de quelques éléments qui s'y trouvent. C'est vrai que c'est un bar qui fait vraiment typiquement comme on l'imagine du pub anglais, avec parmi les éléments étranges, il y a le titre même de ce pub qui est perdu dans la campagne, qui s'appelle The Slaughtered Lamb, l'agneau massacré, littéralement, avec une ambiance double justement qui se crée avec... ce qu'on retrouve finalement dans ce que faisait la Hammer, c'est-à-dire finalement c'est paysans qui sont montrés comme des gens froids et durs au moment où ils rentrent, tout le monde les regarde, la blague qui fait rire tout le monde, et on se dit « Ah, finalement, ils sont sympas !» Et la question, justement, qui refroidit immédiatement l'ambiance. C'est vrai que le film joue énormément sur ce côté à la fois drôle et horrifique, sans que l'un, en fait, ne s'en prenne l'autre. Même au niveau de la transformation dont on parlait, alors qu'il se transforme, on a un plan sur une figurine de Mickey qui renvoie finalement un peu au physique de la bête, c'est-à-dire le visage sans peau et tout le reste du corps recouvert de poils. Scène du coup qui reste mythique, pour lequel Rick Baker, qui fait le maquillage, a eu un Oscar, qui est le tout premier Oscar des maquillages, et beaucoup disent de manière ironique qu'il a été créé spécialement pour lui d'une certaine façon. C'est un film qui a beaucoup d'éléments, comme je vais dire, liés à la Hammer, des éléments gothiques, voire presque qui tient du romantisme littéraire, et j'y pense notamment par le fait que, alors on peut l'interpréter de différentes manières, mais le fait que le héros revoit son ami qui est mort et qui le poursuit un peu constamment à l'avance, lui annonçant les malheurs qui vont lui arriver, et le fait qu'il voit les différentes personnes finalement qui sont mortes autour, pour moi j'y retrouve un peu l'œil que décrit Victor Hugo dans son poème La Conscience, finalement cette idée qu'il est poursuivi par ses actes qui le mènera d'une certaine façon jusqu'à la fin du film. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, meet the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to plead to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper in hush. You know the soft moonlight seems to shine. My heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Well, every time I touch you, will you just tremble inside? And I know how much you want me there, but you can't have.
écoutez Culture Prohibée, spécial Loup-garou de Londres. Alors oui, les amis, vous avez raison. L'agneau sacrifié, hein, l'agneau massacré, ben c'est notre copain là, voilà, qui va être sacrifié. Il est prévenu, hein. Il est, d'ailleurs, tout le monde le prévient. On lui dit n'y va pas. Enfin, ça me rappelle cette fausse bande-annonce d'Eliros dans pour Boulevard de la Mort et Grindhouse là, dans lequel don't. C'était qui était très drôle, voilà. Là, c'est un peu ça, on le prévient. Alors évidemment, ce sont les archétypes de films, effectivement, de la Hammer, de la Universal hein, aussi, parce que l'influence majeure reste quand même pour John Landis, c'est quand même quelqu'un qui est fasciné par la Universal, qui est vraiment quelqu'un qui a été marqué, comme tous les gens de sa génération, par les monstres de la Universal. Le loup-garou, d'ailleurs, est dans les films de Wagner et tout, il n'est pas forcément très bien traité. Ils ne sont pas extraordinaires. Les films de les Frankenstein sont magnifiques, les Dracula sont magnifiques, la momie est magnifique. Le loup-garou, un peu moins, je trouve, dans les films de la Universal, c'est celui qui est un peu moins bien traité. D'ailleurs, c'est un mythe souvent assez mal traité au cinéma. Globalement, il n'y a pas beaucoup de grands films de loup-garou.
Bon, quand même, celui de George Wagner, il est quand même classe parce qu'il a une chemise noire. Hein.
Oui, c'est vrai, mais vous t'es d'accord avec moi, Thomas, c'est pas alors Thomas opine du chef, hein, c'est pas le meilleur de la Universal, voilà, c'est pas le plus réussi. Et pourtant, quel mythe que celui du loup-garou, enfin, je veux dire, c'est vraiment un mythe passionnant, tout autant que celui du vampire, tout autant que celui de Dracula. Et c'est ça que comprend très bien John Landis, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect mythologique, et donc s'il y a l'aspect mythologique, il y a romantisme, forcément, chez Landis, et tu le dis, c'est un grand film romantique, en fait, c'est un grand film tragique, c'est drôle, mais c'est aussi tragique et romantique, on va venir là-dessus. Alors effectivement, tu as cette relation avec son pote, en fait, hein, qui peut rappeler un peu quelque chose qu'on verra plus tard dans le cimetière de Marie Lambert, avec ce mort qui revient tout le temps, voilà, ça s'appelle Roscoe, je crois, dans le film de Marie Lambert, dans Cimetière, adapté de Stephen King, je crois qu'il s'appelle Roscoe, enfin bon, bref, je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Et il revient régulièrement, c'est pompé sur le loup-garou de Londres, et effectivement, c'est un peu l'oiseau de mauvais augure, son pote, mais en même temps, c'est sa malédiction à lui, c'est-à-dire qu'il le revoit tout le temps, c'est le poids de sa culpabilité, puisqu'il vit très mal sa condition de loup-garou, parce que bon, ben... le principe, quand même, quand t'es loup-garou, c'est que tu vis plutôt mal ta condition. Quand t'es Mr. Hyde, tu l'as un peu voulu, on va dire. Et puis, le loup-garou, c'est un peu comme la créature dans Frankenstein, c'est un peu comme King Kong. C'est effectivement un monstre qui vit mal sa condition. Il n'a rien demandé, et puis il est loup-garou, et puis c'est une malédiction, en fait, qui le frappe. Hein, voilà, et pour David, c'est une malédiction en fait. Voilà, pour lui, c'est une malédiction. Dans son malheur, il va rencontrer quand même une infirmière campée par Jenny Argüter, qui est super actrice, oubliée aujourd'hui, hein, qui jouait aussi, qui était très bien dans Écus de Sidney Lumet, qui est une actrice vraiment oubliée, qui a une vraie présence, qui est très belle, je trouve, qui a une sorte de, qui a quelque chose, quoi, qui dégage quelque chose, et elle convient très bien à son personnage, c'est-à-dire qu'elle elle comprend très vite quelque chose qui ne va pas, et puis elle est quand même amoureuse de ce garçon, mais on sait d'avance que c'est une destinée qui va être tragique, quoi. Voilà, parce que c'est aussi un grand film tragique, le Loup-garou de Londres. On nous le vend toujours comme les débuts de la comédie horrifique. Bon, d'ailleurs, c'est pas vraiment vrai, hein. C'est pas les débuts de la comédie horrifique. Les débuts de la comédie horrifique, ils remontent à bien plus loin. Ils remontent à Beauté Costello. Ils remontent même au tout début du cinématographe, où on mélangeait déjà comédie et horreur, puisque les deux vont bien ensemble, en fait. C'est une manière d'exorciser ses peurs, d'en rire, ou de les montrer horribles telles qu'elles sont, ou le grand guignol ou le rire. Il y a beaucoup de liens entre le grand guignol et le rire. Et il y a aussi vraiment de très bonnes idées. Et quand je parle de tragique, je pense aussi, par exemple, à la manière dont est utilisée la chanson « Blue Moon », lors de la transformation, qui du coup donne un aspect tragique, y compris à cette transformation. C'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose, voilà, c'est pas hop, deux, trois effets CGI, on se transforme, et voilà, et c'est pas les loups-garous d'Underworld, quoi. On devient pas loup-garou comme ça sur commande et c'est méga cool. Non, là, ça rigole pas, et j'aime beaucoup tous ces choix, en fait. Et puis la photo est très belle, il y a un côté crépusculaire, Il y a une esthétique bleutée aussi qui est très présente. Il arrive, ce qui est très bien, hein, ce qui est très fort, ce qu'arrive à faire d'ailleurs aussi Joe Dante sur Hurlement. C'est-à-dire qu'il arrive à mélanger cette patine très propre au cinéma des années 80 avec ces lumières très particulières, ce ton très urbain, en fait, quelque part, ces tonalités bleutées, tout ça, ce ton très urbain, avec quelque chose de gothique qui serait plus à rattacher du côté de l'épouvante classique. Et qu'effectivement, on peut faire des corrélations avec la Hammer, puisque la Hammer, au départ, en tout cas, ce qui a rendu célèbre la Hammer, c'est la colorisation des films de la Universal. Donc, on est sur quelque chose de comme ça qui. C'est pas du Technicolor, c'est vraiment dans l'esthétique des années 80. En même temps, on retrouve quand même un aspect plastique très particulier. Et je trouve vraiment particulièrement, en plus, dans ces deux films-là, dans le Hurlement et le Loup-garou de Londres. Alors, dans mon top 3, je vais le dire quand même, hein, le troisième, c'est Joe Johnston, hein, le Wolfman, qui est vraiment super aussi, je trouve.
Voilà. Bah écoute, un deuxième miracle en une journée, en moins d'une heure, c'est incroyable. Hein. En plus, en revoyant le Loup-garou de Londres, j'ai pensé à The Wolfman, parce que je pense que la scène finale du Loup-garou de Londres a directement inspiré la scène où le loup-garou de The Wolfman s'échappe dans Londres. Il y a les mêmes trucs avec le bus, on retrouve les mêmes choses, quoi. C'est la même pagaille, c'est à peu près les mêmes accidents. Donc je pense que c'est une influence directe sur le film de Joe Johnston.
Écoutez, Culture Prohibée, spécial Loup-garou de Londres.
Il y a quelque chose qui travaille Landis, c'est la judaïté de son personnage. Parce qu'il y a cette scène de cauchemar avec des loups-garous nazis. Et donc, quelque part, est-ce que ce personnage a du mal à assumer son statut dans un monde où... et encore de l'antisémitisme. Est-ce que c'est une surinterprétation ou pas? Je ne sais pas. Parce que le film se termine quand même sur une Pietà. Donc il y a quand même un aspect religieux qui est là.
C'est vrai, bon, je voulais en parler, mais ces séquences oniriques sont assez impressionnantes aussi, assez délirantes en fin de compte. Hein, et donnent là aussi une patine toute particulière. Je parlais tout à l'heure de cette patine très particulière, à la fois très années 80 et puis très Hammer film, très universal en même temps. Voilà, vraiment, c'est un film avec complètement unique. En fait, je pense que on ne prendrait plus autant de risques narratifs aujourd'hui pour faire un film, parce que c'est un film gonflé en fin de compte. Hein, quand on regarde bien, c'est assez gonflé, et puis en plus c'est un film assez dramatique. Enfin, il y a pas d'échappatoire pour le héros. Pour rompre la malédiction, c'est très compliqué, quoi. Son histoire d'amour est impossible, tout ça. Enfin, c'est bien sûr c'est drôle, mais c'est pas que drôle. C'est assez intéressant. Moi, je trouve en plus que c'est, je sais pas si c'est le meilleur film de John Landis, mais c'est un de ses tout meilleurs en tout cas. Il est au sommet de son talent quand même à ce moment-là.
La scène onirique qu'on a, celle avec les nazis, est assez particulière. Et en fait, ça retombe un peu sur, à mon avis, ce dont on parle depuis tout à l'heure, qui est l'idée du monstre, également du traumatisme auquel il est lié, que ce soit justement la souffrance physique qu'il exerce dans ces scènes de transformation, ou que ce soit le traumatisme qui revient le hanter sous forme de son... meilleur ami. On a aussi parlé des films que ça avait inspiré, et je me demande si en fait la façon dont le loup-garou traumatise à la fois le corps et son esprit ne se retrouve pas du coup dans une saga beaucoup plus connue et contemporaine, mais qui utilise quand même la figure du loup-garou, qui est la saga Harry Potter, où justement le loup-garou est utilisé en tant que métaphore des maladies sexuelles qui se transmet. Et d'une certaine façon, je sais que c'est beaucoup extrapolé, mais le fait que justement la malédiction du loup-garou l'empêche d'avoir une relation saine avec son ami, et que au fur et à mesure cette souffrance s'exprime sur son corps et de la façon dont ses relations sont tissées, je me demande si c'est pas un élément justement qui a permis la création de ce personnage dans cette série. On parlait aussi du fait que les loups-garous sont souvent très mal traités dans les films, et c'est vrai qu'au niveau des transformations, c'est très rare, et le fait que le loup-garou de Londres réussisse tous ses points, c'est peut-être ça qui le rend aussi unique et aussi bien dans un univers où les loups-garous sont souvent maltraités et ratés.
Je pense aussi que ce qui rend le film particulièrement réussi, c'est sa richesse thématique. Enfin, Thomas parlait de la judéité du personnage. C'est présent, c'est indéniable dans le film. Oui.
Judéité, j'y pense là qu'on peut peut-être rapprocher au juif errant, vu que c'est un personnage qui n'est pas chez lui. C'est un Américain en Angleterre, avec le fait qu'il se balade dans la lande avec son pote. Ça peut peut-être faire un parallèle avec le juif errant. Peut-être que j'extrapole, je ne sais pas, mais c'est une piste.
Ah, tout le monde extrapole aujourd'hui, décidément. Non, mais après, oui, il y a une richesse. Bon, j'ai déjà dit, hein, il y a la comédie, il y a le tragique, il y a des références, mais pas trop. On n'est pas dans le film méta non plus. Voilà. C'est un film très rythmé, il se passe beaucoup de choses. Et puis, il y a la confrontation, un moment aussi, il confronte le mal au mal réel. Pas le mal M.A.L. Hein. Le mal au mal réel, c'est avec cette scène onirique et ce loup-garou nazi, il nous rappelle que le mal existe, mais c'est pas un loup-garou. Ce qui te choque plus, c'est pas de voir un loup-garou, c'est de voir un loup-garou nazi. Le nazisme, ça c'est le mal, c'est pas le loup-garou le mal. Le loup-garou, c'est une malédiction. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi quand on réfléchit bien à ce que ça dit, à ce que ça implique. Ces analogies, toutes ces richesses thématiques, font que c'est un film en fait dont on parle 40 ans plus tard, et on s'émerveille toujours de ce film, et il marche toujours, ce film, enfin il fonctionne toujours, tout comme Hurlement fonctionne toujours d'ailleurs sur le public, malgré effectivement des effets spéciaux qui datent d'un autre temps et tout ça. Bon, là ils sont quand même particulièrement réussis, hein, quand même, malgré tout, parce que le film raconte plein de choses, il raconte autre chose, et c'est un film protéiforme qui est réussi. Enfin, je sais pas, à l'époque Landis marche sur l'eau, enfin il vient de faire les Blues Brothers. Il a jamais fait de film fantastique avant, par contre il a un amour du fantastique qui est extraordinaire. Il a d'ailleurs écrit un très bon bouquin sur les monstres du bestiaire fantastique. Il porte tout ça. Tu parlais du King Kong, évidemment. Enfin voilà. Et tout ça, c'est, il porte tout ça, il arrive bien à digérer ses influences et il marche sur l'eau, c'est clair. Il vient de faire les Blues Brothers, après il fera un fauteuil pour deux. C'est le roi du monde à l'époque, John Landis. Voilà, personne ne va aller contester ce que fait John Landis, même si la critique n'est pas très tendre avec lui. Hein. Mais par contre, le public lui rend bien. Enfin voilà, ses films rencontrent un très fort succès public. Bon, vous avez compris, on pourrait parler très longtemps de ce film qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, on parle souvent des loups-garous dans cette émission. En fait, je me rends compte, c'est peut-être parce qu'on en a un à notre table. Hein, voilà. Mais ce que je vous propose, alors, c'est d'aller à la rencontre de John Landis. Alors, John Landis, on l'avait rencontré lors de sa venue au Festival international du film d'Amiens il y a quelques années. Donc, tout de suite, John Landis au micro de Culture Prohibée.
Comment est né le loup-garou de Londres ?
So I'm in Yugoslavia, I'm 18, and I was going from Novi Sad to Umag. It's one road straight.
Je suis en Yougoslavie, j'ai 18 ans et j'étais sur une longue route qui allait de Novi Sad à Umag. À cette époque, il y avait 10 000 voitures dans tout le pays. Nous étions donc sur cette route toute droite de 100 miles de long et soudainement on s'arrête.
And there suddenly we stop. And the driver was a Yugoslav named Sasha. And Sasha was 30, I was 18, and he was very educated. He spoke English.
Le chauffeur était yougoslave, s'appelait Sasha, et était très instruit. Il parlait français, anglais, espagnol, italien, il était vraiment très intelligent.
And we stop the car and he gets out and he comes back laughing. He says, "Look at this."
Il sort et il revient en riant, me dit de jeter un œil. Il y avait une route qui traversait celle sur laquelle nous étions. Au centre du carrefour, ils avaient creusé un trou d'à peu près 3 mètres. Il y avait deux prêtres grecs orthodoxes avec barbe, chapeau et encens. Tout cela était très exotique. Et il y avait aux alentours une trentaine de gitans. Je n'avais jamais vu de gitans et ils m'apparaissaient comme ceux dans The Wolfman. Ils étaient habillés comme les figurants du film. Sur le sol, il y avait un homme mort enveloppé d'un linceul qui était lui-même enveloppé de guirlandes d'ail et de rosée. Mais que se passait-il ?
And rosary. What the fuck? What's going on? And Sasha spoke to someone and explained to him, and he thought it was very funny. But we were there like 45 minutes, you know.
Quelqu'un a expliqué à Sasha ce qui se passait et il trouvait ça très drôle. Nous sommes restés immobilisés pendant 45 minutes.
And then they covered it up.
Ils ont pris son corps, ils l'ont mis dans le trou, les pieds devant, comme s'il se tenait debout. Ils l'ont recouvert et ont mis de la terre par-dessus. Ils ont prié, fait des signes de croix, lancé de l'encens et de l'eau bénite. Je ne savais pas ce qu'avait fait cet homme, mais c'était un criminel. Et il prenait toutes ses précautions pour que son corps ne se relève pas et fasse des problèmes. Alors que Sasha trouvait ça très drôle, j'ai dit « comme un zombie ».
Like a zombie? I mean, they what? You know, and
ils étaient très sérieux.
And then finally,
nous avons fini par partir et je n'arrêtais pas d'y penser. Parce qu'une semaine avant cet événement, un homme a marché sur la Lune en 1969. Et ces gens parlaient de morts vivants. Je me disais, c'est dingue.
Wow, that's nuts, you know?
Et j'y ai pensé toute la nuit. Je voyais faire un raccord sur le carrefour avec la caméra qui descend vers le trou. On entend et les doigts sortent de terre. Comment réagirais-je devant ça ? Vous souriez parce que c'est drôle ? Et étrange. Parce que c'est marrant, c'est ridicule. Pourtant, des gens instruits et modernes réagissent aux choses étranges avec humour.
Okay, I'll give you
Je vous donne un exemple. Vous allez au cinéma et vous aimez le film. Et vous sortez de la salle. Vous marchez dans la rue et votre ami dit « Regarde, regarde !» Et vous voyez un homme de l'autre côté de la rue, plus d'un mètre 80, très grand, avec du maquillage blanc, du rouge à lèvres. Ses cheveux sont lissés et il a une cape. Il marche comme ça, vous riez. Il vient droit face à vous et il vous dit « Je veux boire votre sang !» Alors vous riez. Il vous attaque, vous met par terre et déchire votre gorge avec ses dents. Vous avez mal. Vous avez peur, vous mourrez. Mais vous n'avez pas envisagé qu'il est un vampire qui est revenu de parmi les morts pour boire votre sang. La réaction de la personne instruite est d'en rire. Parce qu'elle sait que le surnaturel n'existe pas. J'avais l'idée, mais comment faire pour que ça sonne vrai? Comment traiter le ridicule pour que ça fasse vrai? C'est pour ça que je pense que les deux plus grands films fantastiques de tous les temps sont Le Magicien d'Oz et L'Exorciste. Ils sont très différents, mais tous les deux créent des univers auxquels on adhère de façon différente. Le Magicien d'Oz est très théâtral. On peut voir les murs peints, mais cela n'a pas d'importance. Quand j'ai vu L'Exorciste, j'étais avec Jim O'Rourke et George Foltz. J'ai grandi en tant que juif libéral, ou ce que l'on appelle un juif laïque. Jim et George sont tous deux des enfants de catholiques. Ils viennent de cette culture tous les deux. Nous avons regardé le film, avons eu une sacrée trouille, et nous sommes allés boire un café, nous avons parlé, 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 et nous sommes rentrés chez nous. Je me couche, je ronfle. Alors que George et Jim ont eu des cauchemars pendant une semaine, parce qu'ils avaient été conditionnés avec la figure de Satan. Moi, je ne crois pas en Satan. Je ne crois pas en Jésus-Christ. Mais je ne crois pas non plus au diable. Je pense que le diable est la plus grande excuse jamais trouvée. Comme ça, les gens peuvent dire « ce n'était pas moi, le diable m'a poussé à le faire ». C'est une excuse pour tout et n'importe quoi.
écoutez John Landis, le réalisateur des Blues Brothers et du Loup-garou de Londres au micro de Culture Prohibée.
William Friedkin and the actors and everybody made that movie.
William Friedkin, les acteurs, tous ceux qui ont participé à la réalisation de L'Exorciste ont fait en sorte que l'histoire soit crédible. J'ai cru qu'elle était possédée par le diable. Mais j'étais soulagé de voir Max von Sydow entrer en scène. Ah, enfin! Je pense que le Vatican devrait donner de l'argent à Bill Friedkin parce qu'il a réussi à rendre crédible quelque chose de ridicule. C'était si crédible que dans le film, dans l'église, la statue de la Vierge profanée, alors que je me fous de la Vierge. Mais là, ça m'a fait enrager. J'étais assis dans le cinéma et je me disais, oh mon Dieu, c'est un grand film. Il fonctionne sur bien des niveaux. Alors je pensais, comment je fais ça? Comment je rends l'irréel réel? L'exorciste avait un gros avantage en la personne de l'Église. Il y avait de la propagande pour tous ces trucs. Je devais prendre quelque chose qui n'était pas commun pour que ce soit crédible. C'est pour ça que Le Loup-garou de Londres est marrant. Je ne le considère pas comme une comédie. C'est un film d'horreur. Mais il est très drôle. Et je pense que l'aspect comique le rend plus crédible et plus tragique. Ce n'est pas une histoire heureuse. Innocent Blood, mon autre film d'horreur, est une comédie qui a une fin heureuse. Le scénario a été écrit en 1969 et le film tourné en 1981. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? C'est exactement ce que j'avais écrit. Il y a eu une seule différence. La première fois que je suis allé à Londres, en 1969, en allant en Yougoslavie, j'ai vu qu'ils avaient des cartoon cinéma. C'était de petits cinémas à Piccadilly, à Victoria Station, Hyde Park Corner, Trafalgar Square. Ils permettaient aux parents qui partaient faire des courses d'y déposer leurs enfants. Ils projetaient des dessins animés. Quand j'y suis retourné en 1975, je bossais sur un James Bond. J'y allais souvent car ils projetaient de superbes copies de films de Chuck Jones, de Tex Avery. Ça les rendait dingues sur le James Bond. Maintenant, ce sont des magasins Gap. Quand le personnage allait au cinéma dans le scénario, il allait voir Bip Bip et le Coyote avec des enfants. Je pensais que ça allait être vraiment horrible. Seulement, quand je suis revenu en 1981 pour réaliser le film, c'était devenu un cinéma porno. Voilà pourquoi il se retrouve dans un cinéma porno. Sinon, le reste, c'est exactement comme j'avais écrit. Simon Pegg a déclaré à notre micro que la Ice Cream Trilogy n'aurait pas existé sans Le Loup-garou de Londres. Qu'en pensez-vous? Super! J'ai beaucoup de respect pour Simon Pegg et Edgar Wright. Je pense qu'ils sont très intelligents. Edgar Wright est un merveilleux réalisateur. Encore une fois, quand vous demandez à quelqu'un quel est son film préféré, il est capable de vous dire où il l'a vu, comment, dans quel cinéma, avec qui il était, parce que c'est une expérience émotionnelle. Pour certains, c'est Le Magicien d'Oz, pour d'autres, King Kong. Pour moi, c'est Le Septième Voyage de Sinbad, et pour Edgar, c'est Le Loup-garou de Londres. En 1992, vous signez Innocent Blood. Comme Le Loup-garou de Londres, il s'agit d'une relecture du mythe du vampire. C'est un peu différent parce que c'est une comédie. Le Loup-garou de Londres, c'est sérieux, alors que Innocent Blood ne l'est pas tant que ça. C'est votre autre film d'horreur ? Oui, c'est mon autre film d'horreur. Malgré la qualité du film, la réception par les critiques est mitigée. Ah non, tous mes films aux États-Unis, tous mes films, à l'exception de Un fauteuil pour deux, Même Un prince à New York a été mal reçu. Les critiques ne m'aiment pas aux États-Unis. La critique, c'est une mode. C'est intéressant parce que les mêmes critiques qui ont chié sur le film, vous attendez 10 ans et ils le considèrent comme un classique.
Vous écoutez John Landis. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.